dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Maniakiza avec vous au micro. Georges Léonard Sagnon assure la réalisation. Cette édition de l'Amérique et vous porte sur la visite d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain en Haïti. Marquée par le soutien des États-Unis à la transition politique, la présence de la force multinationale dirigée par le Kenya. Haïti, plongée dans une crise sécuritaire sans précédent, cherche une sortie de crise. Mais la question demeure, cette implication internationale répond-elle aux attentes du peuple haïtien? Quelles solutions concrètes peuvent émerger pour sortir le pays de cette crise profonde? Nous discuterons des attentes, des enjeux et des défis autour de l'implication américaine et de la force multinationale avec nos invités. Jean-Victor Colo, ancien fonctionnaire onusien attaché au bureau du conseiller spécial du secrétaire général pour l'Afrique, est avec nous en ligne. Bonsoir, monsieur Colo.
Bonsoir, bonsoir, cher ami.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci beaucoup.
Rosny Kadé, vice-président de l'Alliance pour une société sans exclusion, c'est un parti de centre-gauche en Haïti. Fondé en mars 2019. Bonsoir, monsieur Kadé.
Bonsoir, Eric. Bonsoir, tout le monde.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci.
Louis-Henri Mars, activiste engagé dans l'édification de la paix. Il est fondateur et directeur exécutif de la paix. Bonsoir, Louis.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique.
Bienvenue dans l'Amérique et vous. La coup la paix, ça signifie quoi brièvement?
La coup la paix signifie que nous sommes une grande communauté et une grande famille et que nous devrions vivre en paix, en bref, en tant qu'Haïtiens.
Alors, en tant qu'activiste, quelle est votre vision de l'implication américaine en Haïti et de ses conséquences sur la population?
L'implication des États-Unis ne date pas d'hier dans la vie et de la communauté haïtienne. Il y a ses bons côtés, il y a ses mauvais côtés, c'est certain. Maintenant, les États-Unis essaient d'appuyer la transition qui se fait en ce moment-ci en Haïti en finançant la force multinationale. Mais nous devons nous rendre compte que et il n'y a pas de solution par les armes à un problème social. Le problème des gangs armés va au-delà d'un problème de cette police ou bien de militaires. Il s'agit d'adresser un problème de façon holistique et au niveau sécuritaire et au niveau social.
Monsieur Kadé, en tant que dirigeant politique, comment vous évaluez l'implication des États-Unis dans ce processus de transition politique en Haïti?
Ben, je peux dire que c'est un peu mi-figue et mi-raisin parce que tout simplement, à un certain moment de la durée, on a comme l'impression qu'il y a une sorte d'ingérence, malheureusement. Et par-dessus tout ça, on croit que forcément, ce sont les Haïtiens qui doivent être vraiment porteur de ce changement au niveau du pays. Évidemment, on doit féliciter et remercier les pays amis, mais je pense qu'à la limite du possible, ils doivent faire en sorte que nous, Haïtiens, nous prenons en charge, nous prenons les décisions, et cela peut nous permettre de nous sortir de ce bourbier.
Voilà. Jean-Victor Colo, quelle est votre évaluation de l'implication des Nations Unies dans la situation actuelle en Haïti, notamment à travers les forces de maintien de la paix déployées par le Kenya?
D'abord, je voudrais saluer mes deux frères de Tshisekedi, respecter leur point de vue. Bien évidemment, l'implication des États-Unis, comme l'a dit l'un d'entre eux, n'est pas une chose de nouvelle. Et on peut vraiment bien comprendre les réserves que certains Haïtiens pourraient avoir par rapport aux implications étrangères qui, bien évidemment, n'ont pas toutes été heureuses, même si elles étaient parfois nécessaires, ne serait-ce que certaines d'entre elles. Cependant, en prenant un peu de recul, je crois qu'il faut véritablement féliciter l'implication des États-Unis si on met les choses dans leur contexte. L'implication des États-Unis aujourd'hui, ça veut dire que ils n'ont pas fait ce que un autre gouvernement occidental ou une autre puissance de la sous-région aurait pu faire aisément. Alors qu'il y a véritablement un peu partout dans le monde des défis plus importants qui permettraient à certains États de se détourner de la crise en Haïti. Je parle notamment du Proche-Orient, de Gaza, de ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs en Asie, ou même d'autres conflits en Afrique. Il faut se féliciter du fait que le secrétaire d'État Blinken a pris du temps pour aller en Haïti, a pris des moyens pour octroyer 45 millions de dollars à l'aide humanitaire et s'est engagé politiquement à tout faire à ce que le déploiement des Kenyans soit renforcé, soit peut-être mieux établi sur le plan du multilatéralisme et de l'ordre international, afin que Haïti ait une chance enfin de pouvoir se sortir. Bien évidemment, tout cela appartient d'abord et avant tout aux Haïtiens, mais on ne peut pas laisser, comme l'ont fait diverses personnalités internationales, comme M. Adama Diagne, qui a fait un grand plaidoyer en signant des tribunes depuis 2 ou 3 ans et en faisant signer des chefs d'État et d'autres personnalités, on ne peut pas laisser qu'un pays si important, symboliquement pour tout le monde, l'un des États fondateurs des Nations Unies, l'une des nations les plus faibles de la famille des nations, qui doit donc être secourue par tout le monde, sinon nous ne valons rien dans la famille des nations, on ne peut pas laisser que cette question perdure sans solution. Évidemment, il y a la question des gangs. Évidemment, on ne peut pas régler un problème comme celui-là par la force, mais il faut d'abord établir la sécurité pour qu'un gouvernement puisse être installé et que des élections aient lieu pour que les Haïtiens puissent définitivement prendre leurs affaires en main.
Signalons que depuis 9 ans, Blinken, c'est le premier responsable américain à se rendre à Port-au-Prince. Jean-Victor Collot, brièvement, pensez-vous que l'intervention internationale, en particulier celle des États-Unis, correspond aux souhaits et aux attentes des Haïtiens?
D'abord, on parle d'intervention des États-Unis, mais il ne faut pas oublier que l'un des pays qu'il faut davantage féliciter, c'est le Kenya. Le Kenya qui a envoyé ses enfants et qui peuvent être, n'est-ce pas, au front et peut-être retourner au pays blessés ou même morts. Donc il y a le Kenya, il y a les autres pays africains et les autres pays d'Amérique centrale ou d'Amérique latine qui aimeraient y contribuer. Donc c'est une implication internationale. Les États-Unis, bien évidemment, apportent non seulement l'argent pour l'humanitaire, mais aussi vont contribuer à ce déploiement kenyan qui est lourd. On parle de plus de 360 millions de dollars pour supporter un tel déploiement. Cependant, les missions de maintien de la paix ou les missions de l'application de la paix ne peuvent être un succès que si elles sont acceptées et accompagnées par les populations locales. Il appartient donc aux Haïtiens de véritablement bien accueillir et d'accompagner tant que faire se peut, avec aussi la responsabilisation de ceux qui sont au pouvoir de la transition, n'est-ce pas, pour que cet effort, je dirais même ce sacrifice international où des pays lointains s'engagent. Et ici, il faut féliciter le président Ruto qui a résisté à beaucoup de difficultés. Il faut donc que tout le monde s'y mette, la famille des nations, mais aussi et avant tout les Haïtiens. Pour cela, il va donc falloir que ces déploiements soient arrangés de telle manière qu'il n'y ait pas de doute, qu'il y ait le moins de ratés possible. Ce n'est jamais facile et que toute la loi internationale et tous les arrangements institutionnels soient mis en place pour que cette mission ait toutes les chances de succès.
Monsieur Cadet, pensez-vous que la solution proposée par la communauté internationale répond aux souhaits et aspirations du peuple haïtien?
Dans un sens, je peux dire oui, mais toujours est-il, je crois, qu'il faut vraiment laisser aux Haïtiens cette possibilité de dessiner leur propre avenir. Ben, j'ai écouté évidemment pas mal de commentaires sur l'appui de la communauté internationale à Haïti, mais il y a pas mal de questions qu'on peut se poser par rapport aux résultats. Et aujourd'hui, je pense que nous autres politiques, nous devons agir en toute indépendance, évidemment tout en comptant sur les amis de l'international, pour avancer. Aujourd'hui, ce que nous propose la communauté internationale, moi-même, je pense que l'on doit le revoir ensemble, parce que tout simplement, ça fait déjà des années que ça donne pas de résultats. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan. Et pour mieux le faire, il faut vraiment prendre le recul et avoir son autonomie et avancer comme vraiment dirigeant de pays. Maintenant, les amis, comme je le disais, ils ont leur rôle à jouer, oui, c'est important. Et c'est pour ça que je tiens à chaque fois à remercier la communauté internationale et pour les appuis. Mais il faut vraiment laisser aux Haïtiens, aux dirigeants haïtiens, la chance de dessiner l'avenir de des générations à venir. Ça, c'est ma position et je crois fermement que nous ne pouvons pas sortir Haïti de ce bourbier sans vraiment la pleine et entière responsabilité des Haïtiens.
Louis-Henri, la solution proposée par les forces internationales, en particulier la mission kényane, est-elle suffisante selon vous pour restaurer la paix dans votre pays?
Je pense que la force multinationale peut ouvrir une fenêtre, un espace de dialogue pour que les Haïtiens se parlent les uns les autres. Normalement, par rapport d'abord à l'utilisation des groupes armés pour prendre le pouvoir ou pour conserver le pouvoir. Tout autant que ce dialogue ne se fait pas au niveau des Haïtiens, et au fur et à mesure que les choses changent, les circonstances changent, on va retourner au point de départ. C'est ce qu'on a vu. La MINUSTA a fait 17 ans en Haïti, et puis voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y a un espace de dialogue à créer qui ne peut pas se faire lorsqu'il y a de la violence dans la société, lorsqu'il y a une violence armée qui nous empêche de vous exprimer. Donc, de ce fait, pour nous, l'intervention générale peut être, à un certain moment donné, un espace de dialogue. Au-delà de cela, il y a un travail à faire profondément avec les institutions haïtiennes, en commençant par la police et les forces armées, pour qu'ils puissent reprendre le contrôle. Pour nous, une grande partie du travail que devrait faire cette mission, c'est aider la PNH et l'armée à se restructurer, à apprendre effectivement à respecter les droits humains d'abord et à recréer ce maillage de contrôle du territoire que nous avons perdu depuis le démantèlement des forces armées et finalement le démantèlement de la police.
Blinken en Haïti, défi d'une transition politique, c'est notre sujet de ce soir dans cette édition de l'Amérique et vous. Jean-Victor Nkolo, Rosny Cadet et Louis-Henri Mars sont nos invités dans cette émission. Nous revenons dans quelques instants avec cette courte pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Monsieur Cadet, comment voyez-vous l'impact de la présence des forces kényanes sur le terrain, notamment en matière de sécurité et de stabilité?
Ben, pour le moment, il n'y a pas grand-chose que je peux dire, sinon ils sont là. Et comme je le disais, mon parti le disait dans une note publique qu'on a publiée il y a de cela un mois, on a remercié bien sûr le peuple kényan d'avoir accepté de venir à notre aide, mais cependant jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. On ne peut voir que nos policiers haïtiens qui sont là pour continuer à combattre les bandits. Évidemment, on attend aussi à ce que la communauté nationale donne d'autres moyens à la force kényane et aux forces et de police haïtienne, mais jusque là, il n'y a pas vraiment grand-chose sinon que nos vaillants policiers haïtiens qui continuent à combattre les gangs, évidemment avec un petit appui de la force kényane. Donc on attend, ils l'ont dit, ils n'ont pas encore de moyens suffisants pour faire face aux gangs. Évidemment, pour combattre ces gangs en Haïti en 2024, en ce 2024, il faut avoir une force proportionnelle ou même une force, je pourrais dire, supérieure. Et pour avoir cette force supérieure, on a besoin d'hélicoptères, on a besoin de chars qui sont réellement équipés pour ce genre de combat. Et c'est pour ça que je peux même confirmer que jusque-là, presque trois mois après, il n'y a pas vraiment grand changement. Sinon, comme je le disais, nos policiers haïtiens, ils sont là à continuer à se battre contre les gangs. On attend encore une fois d'autres moyens de la communauté nationale, comme des hélicoptères, des chars de guerre, etc. etc.
Louis-Henri, avez-vous constaté des progrès concrets? Comment percevez-vous l'évolution de la situation sur le terrain depuis l'arrivée des forces kényanes?
La semaine passée, la PNH et les forces kényanes et le FADH sont entrés dans le Bel Air et sont restés, ce qui est une amélioration par rapport à ce qui se faisait auparavant, où il y avait une intervention où ils se retiraient. Cependant, la stratégie qui est en train d'être utilisée n'est pas très claire, parce que jusqu'à présent, les chefs de gangs du Bel Air n'ont pas encore été neutralisés. Donc, ceci aussi ne peut être qu'une partie de la solution. Il y a une offre de sortie pacifique qui doit être faite par l'armée, par le gouvernement et par les institutions internationales pour qu'il y ait moins de résistance et possible. Sinon, ce que vous allez avoir des civils et qui ont déjà subi pas mal au niveau des gangs, qui vont aussi, par rapport à un conflit armé au sein des quartiers, qui vont subir beaucoup de dommages collatéraux. Or, et ceci ne va pas être une bonne chose pour la mission et pour la société haïtienne en règle générale. Nous devons, en tant que peuple, aller vers une réconciliation entre nous par le démantèlement des gangs, c'est vrai, mais aussi par une réinsertion des membres de ces gangs qui sont très jeunes, pour beaucoup d'entre eux, dans la société haïtienne.
Monsieur Nkolo, quel danger voyez-vous dans l'implication des forces internationales, à la fois en termes de perception et d'efficacité sur le terrain?
La perception et l'efficacité sont deux choses très importantes. L'un des grands dangers, c'est qu'il y ait des loupés, c'est qu'il y ait même des erreurs graves, comme celles qui ont été faites, par exemple, par le contingent népalais. Je connais un peu la situation en Haïti pour y avoir travaillé moi-même. Et je rappelle donc à nos auditeurs que le peuple haïtien n'a actuellement pas d'armée en tant que telle et n'a qu'une force de police. Parce que j'étais en Haïti et j'y travaillais quand les forces armées d'Haïti ont été dissolues et mal démobilisées. Donc c'était soit un demi-succès, soit un demi-échec. Il faut donc qu'on trouve quelque part les moyens pour pouvoir neutraliser les gangs. Ça, c'est essentiel. Et cela, ça ne se fait pas nécessairement ou seulement avec des discours. La collaboration et surtout le dialogue entre les diverses parties haïtiennes, entre les diverses sociétés civiles, entre les divers partis politiques haïtiens, tout cela est absolument nécessaire. Mais il faut préciser que l'un des grands chefs de gang, Barbecue, est lui-même un ancien policier. Et il faut aussi préciser que les inimitiés politiques en Haïti, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Haïti a toujours été, comme d'ailleurs beaucoup de pays, le centre de beaucoup de diatribes et parfois de beaucoup de conflits politiques, parfois violents. Mais dans le cas présent, il ne faut pas toujours frapper sur l'arrivée de la communauté internationale, même quand elle est pas parfaite, parce que les choses ne sont pas toujours faciles. Tout comme ça n'a pas été facile quand il a fallu que cette communauté vienne au secours d'Haïti lors du grand tremblement de terre. Je me souviens, j'étais à l'époque porte-parole à l'Assemblée générale des Nations unies, et il a fallu vraiment battre le tam-tam pour que les pays se déploient. Mais ce déploiement n'a peut-être pas toujours été heureux. Dans le cas présent, il faut véritablement éviter que le pays s'enfonce, qu'un déploiement comme celui des Kenyans ne soit pas couronné de succès, parce que cela va décourager beaucoup de pays. C'est pour cela qu'il faut encourager ce que le secrétaire d'État Blinken a commencé à faire, et que cette démarche américaine soit accompagnée par d'autres pays pour que, comme le disait notre frère, qu'il y ait des hélicoptères, qu'il y ait des chars, qu'il y ait des moyens appropriés. Car une chose est la volonté, une chose est la perception, une autre chose est l'action. Il faut absolument que les gangs soient neutralisés pour que les Haïtiens puissent se parler dans la paix et dans la sérénité entre eux, et pour qu'ils puissent établir l'avenir qu'ils veulent pour eux-mêmes. Haïti est une nation indépendante dont l'indépendance a été acquise au prix du sang et au prix d'un symbole fort pour tous les peuples noirs, et même pour tous les autres peuples qui ne sont pas noirs. Donc, il est important que la communauté des nations continue à s'investir. Mais il appartient en effet aux Haïtiens, d'abord et avant tout, de pouvoir résoudre leurs problèmes. Mais
préalablement, pour que ces problèmes soient résolus, il faut une neutralisation des forces du mal en Haïti.
Oui. Louis-Henri, en une minute, quel chemin proposez-vous pour sortir Haïti de cette crise en tenant compte des aspirations du peuple haïtien et des réalités sur le terrain?
Nous devons aller aux racines du problème haïtien. On parle beaucoup de fatigue de la communauté internationale par rapport à Haïti, c'est parce que les mauvaises questions sont posées. Quelles sont les racines des problèmes de la société haïtienne? Comment est-ce qu'on peut construire entre nous, haïtiens, une commune, un sentiment de commune humanité? Comment on peut transformer les traumas que nous n'avons pas transformés, que nous transmettons les uns aux autres de génération en génération? Comment pouvons-nous dialoguer entre nous, nous rencontrer toute la société de haut en bas pour discuter de ces choses-là et attaquer les racines des problèmes? Sinon, nous allons avoir des ministères, des MSS encore pendant des générations. Les interventions étrangères peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvrir une fenêtre permettant ces dialogues, ces rencontres de se faire. Et si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à aller dans la mauvaise direction.
Monsieur Cadet, une minute, vous aussi. Quelle réforme politique proposez-vous pour assurer que la transition en cours aboutisse à des élections libres et transparentes?
Avant de parler d'élections, il faut parler vraiment de d'abord, et ensuite organiser de très bonnes élections en Haïti pour sortir une fois toutes dans cette histoire de transition. Évidemment, on ne peut pas le faire sans vraiment cette autonomie des Haïtiens. On ne peut pas le faire sans rappeler à nos amis, à nos paysans amis, que évidemment, les grandes décisions de ce pays, c'est nous qui devons les prendre. Et ça doit passer vraiment par cette conscientisation de tous les Haïtiens pour savoir que ça fait déjà un bon temps que le pays demeure dans cette crise. Et sortir de cette crise, c'est d'abord aborder la question de l'insécurité, ensuite organiser de très bonnes élections pour avoir un gouvernement constitutionnel pour diriger le pays avec de grands chantiers. Donc c'est clair que nous autres politiciens, dirigeants de partis politiques, acteurs politiques, société civile éco, nous devons nous mettre ensemble pour poser les vrais problèmes du pays. C'est inévitable pour qu'à chaque fois, soit on aille à Jamaïque ou quelque part d'autre, pour prendre des leçons, et on pense qu'en 2024, l'ingérence doit avoir sa limite. Nous, Haïtiens, nous devons avoir notre liberté, notre autonomie et indépendance pour prendre de très bonnes décisions pour notre pays.
Voilà. Jean-Victor Collot, il nous reste une minute pour terminer cette émission. Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour assurer une transition politique réussie et la restauration de la sécurité en Haïti?
Quand j'écoute les frères qui viennent de parler, j'ai de l'espoir parce qu'ils sont debout et ils définissent très bien le chemin que les Haïtiens doivent eux-mêmes tracer. J'ai aussi de l'espoir parce que Haïti a toujours été un pays debout, même quand un tremblement de terre extrêmement violent est venu fracasser les meubles, les immeubles, l'esprit haïtien est resté debout. C'est aussi un peuple très créateur, très créatif. C'est aussi un peuple d'hommes, mais surtout de femmes très fortes. Donc je suis convaincu qu'avec la bonne approche, les Haïtiens eux-mêmes sauront prendre la place qui leur revient autour de la table pour que les décisions soient prises avec eux et par eux, qu'ils ne soient pas simplement les récipiendaires de décisions qui sont prises ailleurs. Encore qu'il faut la responsabilisation des hommes politiques et des acteurs économiques et de la société civile, car il n'y a pas que des gens qui s'investissent dans le bien, il y a aussi des gens qui s'investissent dans le mal. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, la communauté internationale ne peut venir qu'en appui. Cependant, connaissant la force historique et symbolique du peuple haïtien, j'ai confiance et je sais que ça finira par arriver. No condition is permanent. Tôt ou tard, les Haïtiens trouveront solution à ce problème.
Merci Jean-Victor Collot. Alors que Haïti traverse une période cruciale, il est clair que la communauté internationale joue un rôle majeur, mais la clé du succès réside dans les solutions locales. Nos invités ont partagé leurs perspectives sur les défis actuels et les pistes à suivre pour une sortie de crise durable. Reste à voir si les efforts combinés des Haïtiens et de la communauté internationale seront suffisants pour amener la paix et la stabilité dans ce pays en souffrance. Éric Manila. Priscilla qui a été avec vous au micro. Merci à Jean-Victor Nkolo, ancien fonctionnaire onusien, à Rosny Kadé, vice-président de l'Alliance pour une société sans exclusion, et Louis-Henri Mars, activiste engagé dans l'édification de la paix. Merci.